France Musique. Les grands entretiens, Anne Montaron, France Musique.
Je suis Edith Canalcisi, je suis compositeur, académicienne, membre de l'Académie des Beaux-Arts. Je suis née le 26 mars 1950 à Lyon.
Je voudrais qu'on vienne à la mer, Edith Canalcisi, parce qu'on a évoqué le mouvement, le ressac, les vagues, l'irisation. On n'a pas évoqué la transparence et on n'a pas évoqué l'infini de la mer.
Oui, alors la transparence, c'est une idée que j'ai, sur laquelle j'ai travaillé dans ma pièce Over the Sea, à propos de l'idée de transparence chez Monet. Parce que Monet était obnubilé par cette idée de transparence, notamment dans les Nymphéas. Oui. Et quand on va à Giverny et quand on voit l'étang sur lequel il est resté tellement d'années et les nénuphars qui sont toujours là et qu'on voit effectivement ce que donnent en transparence de l'eau les nénuphars qui sont sur la surface, on comprend pourquoi ça l'a fasciné. Donc cette idée de transparence, elle est... j'ai travaillé là-dessus en justement par le biais de l'électronique, c'est-à-dire que c'est l'électronique qui en quelque sorte rend cette idée de transparence avec le médium de l'accordéon.
Oui.
Bon, la transparence évoque l'idée aussi d'un registre quand même très, très, très aigu, et puis aussi qui invoque aussi l'idée de l'espace. Donc c'est quelque chose qui est très difficile à rendre. Il faut user de beaucoup de subterfuges pour la rendre sensible.
Et alors l'infini, parce que quand même la mer, c'est aussi
l'infini, oui, bien sûr, bien sûr.
Donc là, on retrouve l'au-delà, l'infini, la troisième dimension.
L'infinitude, c'est quelque chose quand même d'inconcevable. D'inconcevable, quoi. C'est alors que nous, on est tout le temps dans la finitude. On voit les gens partir les uns après les autres. Tout est dans la finitude. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai de plus en plus de mal à accepter, disons. Et l'infinitude, il faut l'imaginer, il faut y croire. C'est pas du domaine donc du ressenti. C'est du domaine de quelque chose que vers lequel on tend, sur lequel il faut travailler aussi, sur lequel l'imagination a beaucoup de prise, et puis là aussi qu'il faut suggérer.
Suggérer la finitude en musique, c'est compliqué.
Oui, oui, oui.
Il faudrait que la musique ne s'arrête jamais.
justement, c'est ça. On peut aussi le suggérer justement par son contraire.
Eh oui.
Ça aussi, c'est un procédé que j'aime beaucoup pratiquer, ça, c'est-à-dire induire des choses par leur contraire. Hein. Mm-hmm. Un peu comme le faisait Beethoven, d'ailleurs, parce que j'ai une grande, grande acquaintance avec la musique de Beethoven, qui est une musique de surprise, d'énergie, de gestes aussi, beaucoup. Ça, Beethoven, c'est pour moi quelque chose qui a été très important.
Et assez théâtral, d'une certaine manière.
Et assez théâtral aussi, oui, bien sûr.
Quelles sont les musiques de Beethoven que vous avez écoutées le plus ? C'est Quatuor à cordes ?
Oh, c'est Quatuor à cordes, bien sûr, mais c'est symphonie. Enfin, chaque fois, la septième, c'est merveilleux. Chaque fois que j'écoute ça, je retombe toujours dans le même... dans la même admiration. Et dans, surtout, c'est une musique qui communique une énergie fantastique, quoi. Parce que pour écrire ça, c'est pas seulement le métier, c'est qu'il y était, on sent qu'il y a le bonhomme derrière qui est, jusqu'à la fin de sa vie, c'est formidable. Et je crois que plus il devenait sourd et plus il y avait cette espèce d'énergie de faire passer malgré tout. Et pour moi, c'est une leçon, ça. C'est vraiment une leçon. D'un compositeur qui, avec presque l'énergie du désespoir, qui continue à vouloir faire passer ce qu'il veut faire passer. Ça, pour moi, c'est vraiment une grande leçon. Chaque fois que j'écoute ça, je dis « Ah oui, d'accord, c'est ça. C'est ça la vie d'un compositeur. »
Ça veut dire d'être Canaccisi que vous n'êtes pas du tout sensible aux musiques statiques, aux musiques, on va dire, de drone ou de temps étal.
J'aurais beaucoup de mal. Je pourrais pas. Je pourrais pas du tout écrire une musique comme ça. Ce qui n'empêche pas leur valeur, hein, pas du tout. Mais moi, je me sens absolument incapable. Je le constate d'ailleurs, hein,
dès que je
chronomètre absolument tout ce que j'écris, je vois très bien dans quelle durée je me situe. Dès que ça dépasse un temps étal d'un certain nombre de secondes, je vois bien que il faut que je parte ailleurs. Quoi. J'admire Chiarino pour ça, parce que je serais incapable d'écrire ça.
Oui.
Mais en même temps, il y a chez lui, ça tient la route. Quoi. On est là tout le temps, il maintient l'intérêt tout le temps. Mais moi, je peux pas. Je suis beaucoup plus dans quelque chose, dans un développement organique, dans une trajectoire, et puis dans les ruptures, comme Beethoven. Vous verrez pas quelque chose d'étal chez Beethoven, hein.
Mais alors, tout ça me semble assez en contradiction avec le Carmel, avec la méditation,
non,
avec la vie monastique.
Ça. Non, croyez pas ça. Non, c'est très, très mouvementé, une vie monastique. Très mouvementé.
Vous l'avez approché ?
Oui, bien sûr. Oui.
Oui.
Oui, je suis toujours en relation avec des amis de longue date. Oui. Non.
La vie monastique
est très, c'est quelque chose de très très particulier, enfin intérieurement en tout cas. Par contre, il y a un rythme immuable, ça c'est sûr. Mais quand vous lisez Saint Jean de la Croix, hein, c'est pas intérieurement, c'est pas une vie étale. Hein. Mmh. Et Sainte Thérèse d'Avila non plus. Hein. Et la petite Thérèse, n'en parlons pas. Enfin.
On a évoqué quelques grandes figures de compositeurs qui vous sont chers. Maurice Ohana, évidemment, Beethoven. On n'a pas parlé beaucoup de Debussy, mais je crois que c'est une figure qui vous est chère aussi.
Oui, ça m'est cher, mais pas vraiment sur le plan de musical. C'est vraiment sur la révolution qu'il a opérée,
oui.
À savoir la priorité du son, la liberté de la forme. Mais ce qui concerne la musique, c'est pas quelque chose qui me
qui me touche.
Mmh. C'est une admiration sans borne, bien évidemment, mais c'est pas quelque chose qui me touche. Par contre, c'est la révolution sonore qu'il a engendrée, dont je suis issu. Ça, c'est très certainement. Enfin, je suis complètement dans cette ligne-là. Mmh. Et puis, évidemment, c'est l'indépendance du personnage qui est assez remarquable. Son regard critique sur ses contemporains.
France Musique, les grands entretiens d'Edith Canadechizy.
Vous avez beaucoup évoqué la notion d'énergie. Il faut être engagé, être dans l'énergie de la composition, de l'action et se battre finalement et toujours avancer, avancer. Vous avez 70 ans, Edith Canadechizy, et vous avez toujours cette énergie, c'est incroyable.
Ah oui.
L'âge n'a pas de prise sur l'énergie.
Ça, c'est quelque chose. Mmh. C'est-à-dire que c'est très curieux parce que pour moi, l'âge n'a absolument aucune importance sur moi. Enfin, je suis même déjà très, très surprise d'arriver à cet âge-là. Je comprends pas pourquoi. Bref. Donc, je n'y pense absolument pas. Et l'énergie est une chose très importante. Sauf que le corps est là et que malgré tout, c'est pas pareil, quoi. Mmh. Mais je pense que l'énergie est plutôt de l'ordre du psychisme. Elle est aussi soutenue par, évidemment, par les forces corporelles, mais c'est de l'ordre du psychisme. Je crois que ce qu'on se dit souvent avec mon mari, c'est qu'il faut jamais s'arrêter. Il faut jamais s'arrêter. Il faut justement, c'est le travail. C'est pour ça que j'accorde tellement d'importance au travail. Il n'y a que le travail qui puisse maintenir justement cette énergie, cette envie d'écrire, le désir d'écrire, le désir de trouver autre chose, de continuer à créer, de continuer à découvrir d'autres choses. Pour moi, ça, c'est quelque chose de formidable parce que c'est, pour le coup, c'est illimité. C'est illimité, l'imaginaire, c'est illimité. Donc, on a toujours cette possibilité, alors là, qui transcende tous les âges et toutes les questions d'âge et toutes les questions de temps. C'est-à-dire que, ben, on a toujours cette possibilité de ce désir, de se dire, je vais trouver quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est ça qui crée, qui renouvelle l'énergie. C'est le désir.
Et parfois, il y a des pannes, ça arrive. Vous vous êtes retrouvé, par exemple, dans ce bureau, devant la page blanche, et là, ça venait pas du tout. Ça arrive, ça, ou c'est...
Ça m'arrive, mais rarement, rarement. Et comme j'accorde beaucoup d'importance à l'inconscient, je me dis qu'il y a un travail de l'inconscient qui fait que... Quelquefois, je me couche avec cette question-là. Je bute là-dessus, il faut que je trouve une solution. Mais il y a forcément une solution, c'est-à-dire que la réponse est dans la question. Et la plupart du temps, le lendemain matin, je trouve.
Aspirer à l'inconnu, c'est aussi aspirer à l'inouï quand on est compositeur. Et finalement,
oui, aussi.
Chercher des timbres, des alliages, et toujours renouveler la palette.
Voilà, toujours renouveler la palette, ça c'est quelque chose de très important pour moi. Chaque fois que je commence quelque chose d'autre, il ne s'agit pas de trouver complètement autre chose. Il s'agit de continuer à travailler sur une idée, par exemple, qu'on a trouvée, en disant, tiens, ben là, je peux aller plus loin dans cette direction-là. Par exemple, quelque chose qui me travaille beaucoup actuellement, c'est l'idée de vibration, justement. Quand on parlait de Turner tout à l'heure, la peinture de Turner, c'est une vibration. Et ça m'intéresse, j'ai pensé à ça quand j'ai écrit mon cinquième quatuor. Je pensais à cette idée de vibration, justement, par rapport à la peinture de Turner. On me disait, mais comment est-ce que je vais pouvoir continuer à travailler sur cette idée de vibration? Donc, évidemment, là, les cordes, encore une fois, c'est le matériau privilégié pour ça. Par le biais des harmoniques, par le biais des différents modes de jeu, peu appuyés, très appuyés. Enfin, voilà, on peut obtenir plein de choses.
Et des cordes, oui. Il y a beaucoup de couleurs dans votre musique, Edith Kanachisi. Est-ce qu'il y a des noirs? Alors, il y a noir et or?
Ah, il y a... Oui. Mais il y a les deux extrêmes, justement. Il y a le noir, bien sûr. D'ailleurs, ça, c'est mon prochain propos qui a trait à la peinture aussi et qui a trait à cette notion de... La notion de couleur, elle est en rapport avec la notion d'espace. Et là, je suis en résidence pendant... 2-3 saisons avec l'ensemble orchestral contemporain, avec Bruno Mantovani, et qui me passe commande d'une pièce pour alto et ensemble. Et je vais faire quelque chose sur l'outre-noir, de Soulages, bien sûr, parce que, justement, ça rejoint totalement, d'abord, l'aspect vibratoire, et ensuite, cet autre versant du noir, et son expérience quasi mystique qu'il raconte, justement, comment il est passé de l'autre côté du noir. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui me fascine. Et puis, c'est une peinture qui me fascine aussi. L'effet, justement, de la lumière. Parce que la lumière aussi, ça, c'est quelque chose de très, très présent dans ma musique aussi. L'ombre et la lumière, enfin, les deux côtés.
Alors j'imagine que dans la pièce qui va voir le jour, il y aura de la couleur, du noir, des transparences.
Oui, voilà, des transparences, des vibrations. Parce que ça engendre des vibrations, justement, là. Cet outre-noir, enfin, cette lumière de, qui... Voilà, enfin, je ne sais pas encore comment je vais le... Mais en fait, c'est un projet qui m'inspire beaucoup.
Il y a d'autres projets en cours ?
Ma prochaine pièce, c'est une pièce pour chœur et orchestre avec le chœur de Flandre et l'orchestre de Metz pour le 4 décembre prochain.
Sur quel texte ?
C'est le thème de l'Apocalypse, Apocalypsis, dans lequel je vais reprendre des textes d'Hildegard de Bingen d'ailleurs, parce qu'elle a eu il y a quelques thèmes sur l'Apocalypse, quelques écrits sur l'Apocalypse que j'ai utilisés déjà dans Vision, que je vais reprendre. Que je vais mixer aussi avec des textes de Nostradamus, aussi avec des textes de l'Apocalypse, bien sûr. Mais donc, je vais faire un mix un petit peu de tout ça dans plusieurs langues, bien sûr. Latin, français, enfin, suivant ce que j'ai déjà écrit, là.
L'Apocalypse, un sujet sérieux.
Ben, c'est un sujet d'actualité, hein. Mais ce qu'il y a dans l'Apocalypse, c'est pas la fin des temps, hein. C'est le relèvement qui est important.
Oui.
C'est après les temps, étymologiquement parlant, c'est après la fin des temps, qu'est-ce qui se passe, quoi.
Vous pensez qu'on va vers une fin des temps ?
On est toujours un petit peu, actuellement, on est toujours un peu dans une atmosphère d'apocalypse, oui, c'est vrai. On est à la fin de quelque chose, en tout cas. On est à la fin d'une période, il y a différentes périodes, on est certainement à la fin d'une période. Donc c'est à la fois très inquiétant et à la fois très exaltant aussi, quoi.
Vision d'Apocalypse, la poésie de Hildegard von Bingen, la musique d'Edith Cana de Chizy dans cet extrait de Visio, dans la version des solistes 21 et de l'ensemble multilatéral, direction Léo Varinsky, à l'électronique Grégory Beller. Ce portrait se referme, un grand merci à toute l'équipe qui a permis la réalisation de ces grands entretiens en 5 volets d'Edith Cana de Chizy, Marie Groux, Bastien Varigaud, Valérie Lavalard, Alexandra Bergel, Aude Vassan et Flora Sternadel. Vous pouvez bien sûr podcaster et réécouter ces grands entretiens sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.